Le point de départ de mon exposé, qui sera en fait mon point d'arrivée, c'est de constater que dans les dernières pages de l'Émile, on trouve une extraordinaire discussion que j'avais appelée à un moment une leçon de morale politique ultime, entre guillemets, donnée par son précepteur à Émile, qui s'apprête, je dirais, enfin à vivre sous sa propre direction. Et c'est donc ces pages que je voudrais comprendre. Mais en fait, pour comprendre ces pages, je crois qu'il faut les replacer beaucoup plus largement dans la logique d'ensemble d'Émile. Et peut-être à partir de là, être amené à soutenir quelque chose que peut-être vous étonnera, mais qui est d'une certaine façon une autre lecture de l'Émile. Non pas du tout, je dirais, une lecture qui voudrait se substituer aux d'autres lectures, mais une lecture qui se distinguerait. Alors je partirai, je vous demanderai juste une convention de départ, c'est que nous partions du point de vue que Rousseau est tout sauf naïf. Et en particulier que lorsqu'il écrit, lorsqu'il rédige, et il a longuement réfléchi et exprimé la façon dont il fallait le faire, il pense très fortement, y compris tout ce qui est de l'ordre des figures rhétoriques. Alors, je partirai, cette précaution étant prise, je partirai d'une remarque qui intervient très tôt dans les premières pages du livre 1, l'Émile. Je donnerai chaque fois le numéro des différents textes que j'évoquerai. Rassurez-vous, y en a que j'évoquerai très rapidement, d'autres sur lesquels je m'attendrai. Donc, qui tout simplement est la première de ces références. Rousseau, donc, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est le moment où il évoque les différents types d'éducation qui peuvent se présenter, et à ce moment-là parle de l'éducation publique. Et on a ce paragraphe. Voulez-vous prendre une idée de l'éducation publique? Lisez La République de Platon. Ce n'est point un ouvrage de politique, comme le pensent ceux qui ne jugent des livres que par leur titre. C'est le plus beau traité d'éducation qu'on ait jamais fait. Alors, encore une fois, Rousseau n'étant pas naïf, nous sommes, je dirais, à quelques pages seulement, 19 paragraphes exactement, du moment où il a écrit le titre, Émile ou de l'éducation. Et, je dirais, on ne peut pas s'empêcher, on ne peut pas ne pas vouloir lire ce texte et, je dirais, avec ce qu'il indique. C'est-à-dire la transcription suivante. Voulez-vous prendre une idée de la politique? Lisez l'Émile de Rousseau. Ce n'est point un ouvrage de pédagogie, comme le pensent ceux qui ne jugent des livres que par leur titre. C'est le plus beau traité de politique qui ait été jamais fait. Je dis tout de suite, je vais essayer de prendre au sérieux cette suggestion, dont, encore une fois, je dis qu'elle n'est pas de moi, mais de Rousseau. À l'endroit où elle est faite et la manière dont elle est faite, explicitement, il nous dit aussi cela. Alors, précisons tout de suite les choses. Bien entendu, je ne me propose pas de tenir cette conversion, entre guillemets, à la lettre, et de dire que l'Émile n'est pas un traité de pédagogie, mais un traité de politique. Pas plus d'ailleurs, je crois, que Rousseau, sérieusement, ne dit que la République n'est pas un traité de politique, mais il nous dit qu'il faut y reconnaître ce qu'il est, je dirais, tout au moins autant, sinon plus, un traité de pédagogie. Donc, il ne s'agit pas de prétendre effacer, entre guillemets, le titre effectif de l'Émile, pas plus que d'effacer celui de la République de Platon, encore que vous savez que pour Platon, les titres de l'Antiquité n'existent pas. C'est en fait les premiers mots qui servent de titre. Enfin, ça, c'est une autre question. Mais ce qui m'intéresse, c'est, au fond, mettre à l'épreuve le caractère heuristique, tout simplement, de cette lecture. Cela, donc, implique nécessairement de rompre avec l'idée reçue selon laquelle, au fond, en écrivant Émile, Rousseau aurait renoncé à ses principes de droit politique, et je dirais, au fond, abandonnant l'illusion d'une société humaine, entre guillemets, légitime, se serait replié sur l'idée de former un individu qui au moins soit conforme à la nature ou à l'idée que l'on peut s'en faire. Il faut renoncer à cette idée qui, au demeurant, est une idée quand même, quand on y pense, un petit peu étrange, puisque, je le rappelle, non seulement le contrat social et les 1000 sont publiés à quelques semaines d'intervalle et en même temps, mais qui plus est, ont été écrits dans une histoire complexe, qui fait que le contrat social, en fait, est commencé avant les 1000, mais les 1000 achevés avant le contrat social. Donc le contrat social, donc l'entrecroisement des deux est tel qu'on ne peut pas souscrire à une idée qu'il y aurait, je dirais, au fond, un renoncement. Donc il faudrait, si je prends ça au sérieux, se déplacer en disant ce qui est bien différent, donc accepter l'idée que dans les 1000, Rousseau aussi, je dis bien aussi, rejoue les principes du droit politique d'une autre façon, sur une autre modalité. Et pour cela, il n'est pas inutile de considérer d'abord ce qu'implique la proposition de Rousseau concernant la République de Platon. Pourquoi nous dit-il que c'est un traité d'éducation ? Ben oui, il a raison, est un texte qui porte pour l'essentiel sur la formation des gardiens, soit, et cela dès le livre 2, pratiquement, je dirais, tout au long de la République, on ne quitte jamais cet objet, soit de cette élite intellectuelle qui aura pour charge de diriger une société qui, chez Platon, est pensée comme fortement hiérarchisée, puisqu'elle renvoie à des différences de nature entre les hommes. Or, il est bien clair que c'est une conception bien différente de l'homme et de la société que défend Rousseau. Ce n'est pas un roi philosophe qui l'entend former, mais un homme citoyen. Et cela sera mis en rapport, encore une fois, je ne l'invente pas, elle est directement faite par Rousseau lui-même, et parce que l'on peut voir clairement de ce point de vue que derrière Fénelon, c'est Platon qu'il vise. C'est ma deuxième référence. Nous sommes ici, je vois, vous avez vous avez E, bien sûr, avec un accent qui est Émile, le numéro du livre et la page dans l'édition de la Pléiade. Au reste, Émile n'étant pas roi, ni moi, Dieu, nous ne nous tourmentons point de ne pouvoir imiter Télémaque et Mentor dans le bien qu'il faisait aux hommes. Personne ne sait mieux que nous se tenir à sa place et ne désire moins d'en sortir. Nous savons que la même tâche est donnée à tous. C'est clair, hein ? La même tâche est donnée à tous. Et c'est bien au métier d'homme et, j'insiste ici pour l'instant, je le problématiserai, de citoyen, qu'Émile serait donc formé. Et de fait, je dirais, ce qui, si on veut mettre en rapport la République de Platon et les 1000 de Rousseau, on pourra dire, et le projet de Rousseau, on pourra dire, il ne s'agit pas pour Rousseau de former les gardiens de la cité, il s'agit de former, ou plus exactement, il s'agit de former les citoyens, qui sont tous, et de la même manière, chacun a la même tâche à remplir, les gardiens d'eux-mêmes et de la cité. C'est clairement l'entendre ainsi. Mais cela semble aller, je dirais, à l'encontre de la compréhension commune du projet de Rousseau. Donc, qui nous dirait la nécessité, dans Émile, de former un citoyen, de la possibilité de former à la fois un citoyen ou un homme. Vous connaissez la formule célèbre, je vais y revenir. Parce que le premier serait devenu impossible, le citoyen, nous dit Émile, dans les sessions modernes, et une note nous dit qu'il sait, je dirais pourquoi, mais il ne donnera pas ses raisons ici, et que les deux seraient donc incompatibles, on pourrait être à la fois homme et citoyen. Eh bien, je commencerai donc par essayer de justifier malgré tout ma position, en montrant comment Rousseau définit d'emblée ce qui est l'ambition centrale qu'il poursuit dans les 1000. Donc, au fond, je voudrais resituer, en guillemets, le projet global de les 1000, et cela en proposant une lecture rapide de quelques textes qui sont bien connus, mais que je vous proposerai de lire peut-être légèrement différemment. On se souvient que Rousseau commence donc, précède immédiatement le texte dont je suis parti, par distinguer les trois sortes d'éducation que nous recevons. Et en disant, cette éducation, notre éducation nous vient de la nature, ou des hommes, ou des choses, le développement interne de nos facultés, de nos organes et l'éducation de la nature, l'usage qu'on nous apprend à faire de ce développement et l'éducation des hommes, et l'acquis de notre propre expérience sur les objets qui nous affectent, et l'éducation des choses. Chacun de nous est donc formé par trois sortes de maîtres. La nature, les choses, la société. Le disciple dans lequel leurs diverses leçons se contrarient est mal élevé et ne sera jamais d'accord avec lui-même. Celui dans lequel elles tombent toutes sur les mêmes points et tendent aux mêmes fins va seul à son but et vit conséquemment. Celui-là seul est bien élevé. Puisque le concours des droits des trois éducations est nécessaire à leur perfection, c'est sur celle à laquelle nous ne pouvons rien qu'il faut diriger les deux autres, et celle-là, bien sûr, nous le savons, l'éducation selon la nature, ici à s'entendre par distinction de l'éducation des choses, de l'éducation de la nature qui est en nous, c'est-à-dire au fond précisément de notre propre développement. Or, si je me permets de rappeler ce texte, c'est que si on le lit attentivement, on ne doit pas comprendre que Rousseau entend faire de la nature l'unique éducatrice quand il nous dit que Émile va être élevé comme selon la nature. Il ne s'agit absolument pas de nous dire selon la nature en excluant les deux autres formes d'éducation, ce qui est une absurdité, il n'y aurait pas. C'est bien d'un concours des trois qu'il s'agit. Le problème, nous dit Rousseau, c'est de faire que ces trois éducations soient concurrentes, donc qu'elles ne se contredisent pas, et qu'elles se soient mises sous l'autorité de l'une d'entre elles, entre guillemets, l'éducation de la nature, sous la nature. Alors, on va voir comment ça se déplace un petit peu plus, et c'est un peu, et c'est le texte suivant, en passant de 3 à 2. C'est donc à ces dispositions primitives, donc qui sont les dispositions que la nature a mises en nous, et on en a parlé tout à l'heure, qu'il faudrait tout rapporter, si cela se pourrait. Si nos trois éducations n'étaient pas que différentes, mais que... Et cela se pourrait, excusez-moi, si nos trois éducations n'étaient que différentes. Mais que faire quand elles sont opposées? Quand au lieu d'élever un homme pour lui-même, on veut l'élever pour les autres, alors le cancer est impossible. Forcé de combattre la nature ou les institutions sociales, il faut opter entre faire un homme ou un citoyen, car on ne peut faire à la fois l'un et l'autre. Alors, je fais remarquer, ici encore, première remarque, nous passons donc de 3 à 2. C'est l'éducation des choses ici qui n'est plus, je dirais, évoquée. Alors, on verra pourquoi. C'est parce que en réalité, elle est indexée soit sur l'éducation de la nature, soit sur l'éducation des hommes. Et on a cette opposition donc qui est constituée, dont il faut remarquer, c'est important, que Rousseau, la contradiction dit l'impossibilité, elle n'est pas du tout posée dans l'absolu. Elle dit c'est si les éducations, si c'est les éducations ne sont pas concurrentes, ces trois voies ne sont pas concurrentes, alors on arrive, je dirais, à cette alternative irréconciliable entre former un homme ou former un citoyen. Donc c'est ici, on passe du concours à la contradiction, et on verra que c'est cette contradiction qu'il s'agit de lever. Alors, je fais remarquer également au passage, et c'est une des lectures, un des éléments importants de l'Émile, que non seulement l'éducation des choses, je dirais, n'est pas abandonnée dans l'Émile, bien au contraire, c'est une certaine façon, toute l'éducation, au moins dans les trois premiers livres de l'Émile, consiste, je dirais, au fond, à faire que l'éducation des choses soit le vecteur central mis sous l'autorité de l'éducation de la nature. C'est rendre concordant les deux qui est l'enjeu majeur. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le fait précisément d'explorer cette contradiction dont on va voir qu'on va essayer de la surmonter. L'homme naturel est tout pour lui, il est l'unité numérique, l'enté absolue, qui n'a de rapport qu'à lui-même et à son semblable. L'homme civil n'est qu'une unité fractionnaire qui tient au dénominateur et dont la valeur est dans son rapport avec l'entier, qui est le corps social. Nous avons ici ne reprendrai pas encore ici ce passage bien connu, mais ce qui m'intéresse, et hier soir nous avons vu à propos de l'article Fer, cette notion d'être relatif, hein, qui va être une des clés de l'interprétation ici, est essentielle. Nous avons donc affaire à un double rapport à soi, qui peut être un rapport de soi à soi qui est absolu, hein, un sur un, dit-il dans le contrat, etc., soit un rapport de soi à soi comme être relatif. Le problème, c'est qu'il y ait contradiction entre les deux. Or, on va le voir, le problème est qu'il y ait contradiction entre les deux, qu'on éduque soit, en guillemets, pour un être pour lui-même, soit qu'on éduque l'homme pour les autres. Et la difficulté, je dirais, essentielle est là. D'où, je souligne encore une fois, comme tout à l'heure, que j'ai montré que l'objet de la question pour Rousseau, c'est celle du concours des trois éducations. Nous allons voir ici que c'est celui de la compatibilité des deux objectifs, des deux objets, de l'être absolu et de l'être relatif, de éduquer un homme pour lui-même et l'éduquer pour la société. Je prends ce texte, 6. Reste enfin l'éducation domestique ou celle de la nature. Mais que deviendra pour les autres un homme uniquement élevé pour lui? Et tout à l'heure, nous avons eu que deviendra quelqu'un qui est élevé uniquement pour les autres, ici, uniquement pour lui. Si peut-être le double objet qu'on se propose pouvait se réunir en un seul, en notant les contradictions de l'homme, on noterait un grand obstacle à son bonheur. Il faudrait, pour en juger, le voir de tout former, il faudrait avoir observé ses penchants, vu ses progrès, suivi sa marche. Il faudrait, en un mot, connaître l'homme naturel. Je crois qu'on aura fait quelques pas dans cette recherche après avoir lu cet écrit. C'est ici, en ce lieu très précisément, que Rousseau nous dit quel est l'objet qu'il se donne, réunir en un seul objet ce qui a été dissocié par l'histoire de l'homme, c'est-à-dire la possibilité de faire un homme pour lui-même et la nécessité de le faire pour la société dans laquelle il vit. Ce que Rousseau prétend dans l'Émile, c'est montrer de quelle façon ces deux objets se pourraient être réunis en un seul. Et à partir de là, on se constitue quelque chose comme, j'ai envie de dire, un fil rouge, va éclairer la suite du propos. Dans l'ordre naturel, alors, et c'est important parce que ici donc il s'agit de savoir où on va chercher l'assise. Quand je disais que ce fil rouge est celui de l'égalité, on va le voir immédiatement, toujours dans le premier livre, celui des politiques, ça va être la question au fond du lien qu'il y a entre l'égal et le commun. Je prends texte 7. Dans l'ordre naturel, les hommes étant tous égaux, leur vocation commune est l'état d'homme. Et quiconque est bien élevé pour celui-là ne peut mal remplir ce qui s'y rapporte. Qu'on destine mon élève à l'épée, à l'église, au barreau, peu m'importe. Avant la vocation des parents, la nature l'appelle à la vie humaine. Vive le métier que je lui veux apprendre. En sortant de mes mains, il ne sera, j'en conviens, ni magistrat, ni soldat, ni prêtre. Il sera premièrement homme. Tout ce qu'un homme doit être, il saura l'être au besoin. Tout aussi bien que qui que ce soit, et la fortune aura beau le faire changer de place, il sera toujours à la sienne. Notre véritable état est celle de la condition étude et celle de la condition humaine. Alors, ici, trois remarques rapides, mais ça me paraît décisive. Donc, la première, c'est le lien entre égalité et communauté. Déjà présent, d'ailleurs, dans le thème du texte du livre 5, sur je ne suis pas roi, Émile n'est pas roi. Il est citoyen. Donc, dans l'ordre naturel, les hommes sont tous égaux. Donc, ce qu'il s'agit, c'est de pouvoir considérer, je dirais, l'homme dans cette égalité. Ce à quoi s'oppose l'inégalité des conditions. Et ici, on a très clairement le passage, avec un jeu extraordinaire sur la notion de condition, des conditions sociales à la condition humaine. Et peut-être qu'on n'a pas assez remarqué que, à ma connaissance, ce syntagme, la condition humaine, je ne suis pas certain qu'il ait été employé avant Rousseau. Je pose la question. Il me semblait intérieurement qu'il était chez Pascal, mais j'ai regardé, je l'ai pas retrouvé. Et l'expression la condition humaine, j'ai pas eu le temps de refaire ce contrôle, mais il me semble bien que c'est une. Oui. Il y a l'humaine condition. Ce qui est, oui, bien sûr. Ah non, ça, c'est Montaigne, d'accord. Ce qui est, oui, c'est très, très proche. C'est, je ne suis pas sûr que le terme condition, du coup, ait le même sens. Enfin bon, c'est une question. Mais c'est sûr, c'est dans cette continuité, ça, on est bien d'accord. Alors, on a ce passage-là. Cette question de l'égalité, c'est intéressant, est passée de point de vue, je dirais, d'une certaine façon épistémologique. Et Rousseau, dans les paragraphes qui entourent celui-ci, explique les choses. Il faut faire abstraction. Il incite à une opération d'abstraction. Parce que l'opération d'abstraction qui va permettre, ce qui fait que Émile, d'ailleurs, reste un individu très indéterminé. De lui, on sait fort peu de choses. Et cette indétermination a pour objet de faire, entre guillemets, qu'il soit un homme. Or, à cette abstraction, je dirais intellectuelle, à laquelle il faut attendez, elle a un correspondant du point de vue de l'égalité qui est très intéressant au moment du choix d'Émile, immédiatement après. Le pauvre n'a pas besoin d'éducation, celle de son état est forcée. Il n'en saurait avoir d'autre. Au contraire, l'éducation que le riche reçoit de son état est celle qui lui convient le moins, et pour lui-même, et pour la société. D'ailleurs, l'éducation naturelle doit rendre un homme propre à toutes les conditions, humaines, voilà, toutes les conditions humaines. Or, il est moins raisonnable d'élever un pauvre pour être riche qu'un riche pour être pauvre, car à proportion du nombre des deux états, il y a plus de ruinés que de parvenus. Mais le tout est dans la fin. Choisissons donc un riche. Nous serons sûrs, au moins, d'avoir fait un homme de plus, au lieu qu'un pauvre peut devenir homme de lui-même. Alors, ça se renvoie à d'autres textes de Lémy, donc vous savez, ce qui n'est pas peuple n'est rien, sur la façon dont il parle des bourgeois, etc. Il y a ici cet énoncé, mais qui a deux dimensions. L'une que je signale ici, donc simplement, au fond, qu'est-ce qu'un pauvre ? Un pauvre, c'est un homme nu, précisément. Et par conséquent, et c'est parce que, au fond, il est dépourvu, entre guillemets, d'état social, de conditions, qu'en même temps, il est au plus proche, entre guillemets, de la condition humaine. Avec, bien sûr, cet aspect, je veux dire, ça c'est l'ironie superbe de Rousseau, en disant, au moins, enfin, mais il y a une deuxième idée, que je ne développerai pas ici, je l'ai développée récemment, à un colloque à l'école des études, toute fin du mois de mai, mais le syntagme remarquable il y a ici, c'est celui de devenir un homme. Alors, je le dis d'un mot, on observera qu'il revient très régulièrement chez Rousseau, et il me semble pouvoir indiquer cette chose très précise. L'homme se définit chez Rousseau comme ce qui est à venir. L'homme de la nature n'est plus. Il est inaccessible. L'homme des sociétés présentes n'est pas humain. Il est déshumanisé. Donc, si on veut parler d'un homme, c'est comme impossible, comme un devenir. Et si on prend la lecture aussi bien du contrat social que de l'Émile, là, on a une proposition, je dirais, centrale. Mais je laisse ce point ici. Par conséquent, ce que je suis en train de suggérer ici, c'est que Rousseau, dans le cours de l'ensemble de l'Émile, au fond, ne perd jamais, je ne dis pas que ce soit un unique objet, mais ne perd jamais de vue que ce qu'il a pour objectif de faire, c'est précisément d'explorer la possibilité de réunir sous le même objet l'éducation d'un homme pour lui-même et l'éducation de l'homme pour la vie sociale. Ça implique, si j'ai bien raison, que au fond la préoccupation de l'entrée d'Émile dans la société, je dirais, elle ne vient pas comme un événement entre guillemets qui interviendrait à la fin du livre 4, au début du livre 5, comme on pense communément, lorsque il lit des liens avec d'autres hommes, mais qu'elle est anticipée comme quelque chose qui se prépare depuis le début. Et cette thèse-là, c'est le point sur lequel je m'attendrai le moins, une lecture attentive d'Émile, me semble-t-il, permettrait de la conforter. J'en prendrai deux ou trois exemples pour montrer comment cette préoccupation intervient très tôt. Alors bien sûr, dès le livre 2, là je vous ai mis le texte en entier, je ne le commenterai pas, je le dis tout de suite, qui est celui de l'échange avec Émile sur la notion de propriété. Ce qui me paraît ici, bien sûr, on se souvient de l'histoire, c'est avec le jardinier, qui est bon, et l'apprentissage que fait Émile, simultanément d'ailleurs, on remarquera, de ce que c'est que la propriété, de sa seule véritable origine, c'est-à-dire le travail, et des problèmes que ça pose, et du sentiment d'injustice qui naît en lui à cette occasion. Ça, c'est un aspect, je dirais, décisif. Ce qui m'intéresse, on pourrait le développer, et montrant comment, je dirais, il y a une profonde cohérence d'entre le point de vue de Rousseau, et vous avez certaines dans le contrat social, dans l'Émile, et dans le second discours. La phrase qui commence ce texte est extraordinaire. Il s'agit donc de remonter à l'origine de la propriété, à l'origine, vous voyez, car c'est de là que la première idée en doit naître. Et là, ici, on a donc la problématique de l'origine. On va voir que on va renvoyer au contrat social, parce que c'est au chapitre 9, bien sûr, du domaine réel du livre 1, qu'on renvoie ici. Il n'y a qu'un seul fondement possible de la propriété dans une discussion, je dirais, qui est très fine et serrée avec Locke, mais laissons, qui est celui de l'appropriation de la terre par le travail, et le fait que ce soit à la racine de la société. Mais ce qui m'intéresse le plus, au fond, je dirais ici, c'est la place occupée par ce passage dans l'économie générale de l'Émile, dès le livre 2. C'est-à-dire qu'au fond, ça fait partie des idées, je dirais, qui vont servir d'assises. On construit, je dirais par anticipation, la façon dont Émile pourra ensuite, je dirais, aborder cette question sur le terrain politique qui n'est absolument pas envisagé ici. Et donc Rousseau dit immédiatement d'ailleurs à la fin du texte qu'il faut s'interdire d'aller plus loin à ce moment-là parce que ça serait inaccessible à Émile. Je continue en montrant que dans le livre 3, nous avons quelque chose d'analogue à propos du travail. Et là, je lis le texte par contre parce qu'il est très intéressant. C'est le moment, enfin il est moins connu peut-être, c'est le moment où, sous cet angle-là en tout cas, c'est le moment où il s'agit de donner à Émile un métier. Sitôt qu'Émile saura ce que c'est que la vie, mon premier soin sera de lui apprendre à la conserver. Donc, le principe de conservation. L'homme, et vous ferez attention, l'homme est le citoyen. C'est encore un syntagme très rare chez Rousseau. Hein. L'association l'homme et le citoyen, elle intervient très rarement et elle est là. Hein. L'homme est le citoyen, quel qu'il soit, n'a d'autre bien à mettre dans la société que lui-même. Tous ses autres biens, ils sont malgré lui. Vous avez une quasi-paraphrase du contrat social, hein, puisque en se mettant lui-même dans la société, il met avec lui ses biens. C'est une conséquence. Et quand un homme est riche, ou il ne jouit pas de sa richesse, ou le public en jouit aussi. Dans le premier cas, il vole aux autres ce dont il les prive. Excusez-moi. Et dans le second, il ne leur donne rien. Ainsi, la dette sociale lui reste tout entière, tant qu'il ne paie pas de son bien. Nul père ne peut transmettre à son fils le droit d'être inutile à ses semblables. Or, c'est pourtant ce qu'il fait selon vous, en lui transmettant ses richesses, qui sont la preuve et le prix du travail. Celui qui mange dans l'oisiveté qui n'a pas gagné de lui-même le vol, ce qu'il n'a pas gagné lui-même, le vol, et rend entier que l'État paie pour ne rien faire, ne dit guère faire guère à mes yeux d'un brigand qui vit aux dépens des passants. La théorie d'ailleurs du cavalier. Bon. Hors de la société, l'homme isolé, ne devant rien à personne, a droit de vivre comme il lui plaît. Mais dans la société, où il est nécessairement aux dépens des autres, il leur doit en travail le prix de son entretien. Cela est sans exception. Travailler est donc un devoir indispensable à l'homme social, riche ou pauvre, puissant ou faible, tout citoyen oisif est un fripon. Alors ici, au fond, ce qui se construit, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi on ne saurait mieux, je dirais, montrer que l'éducation selon la nature, cette éducation négative qui est constamment, je ne vais pas le reprendre, hein, orientée dans une protection d'Émile contre la corruption que la société pourrait introduire en lui. Et dans le même temps, une éducation qui le prépare très précisément à la possibilité de son inscription dans la société. Pourquoi ici, il est, je dirais, éduqué, non pas pour vivre dans la nature, mais très précisément pour vivre en société. Et c'est d'ailleurs très clairement ce que dit Rousseau, peu de pages plus loin. Il y a bien la différence entre l'homme naturel vivant dans l'état de nature et l'homme naturel vivant dans l'état de société. Émile n'est pas un sauvage fait pour habiter des villes. Il faut qu'il sache y trouver son nécessaire, tirer parti de leurs habitants et vivre, sinon comme eux, du moins avec eux. Puisqu'au milieu de tant de rapports nouveaux dont il va dépendre, il faudra malgré lui qu'il juge, apprenons-lui donc à bien juger, et je ne reprends pas la discussion de tout à l'heure sur le jugement. Quel est l'enjeu ici? Il est très clair, donc nous sommes bien d'accord, Rousseau est préparé, je dirais, comme un homme sur la nature, ou si on voudrait, comme un sauvage, propre à vivre avec les hommes. La question, je dirais, de l'Émile me semble être, et là, je vais envoyer directement un texte sur lequel je terminerai, donc cette leçon morale, et de savoir quelle lecture il faut faire de cet énoncé. Il y a une lecture, je dirais, à minima, et il y a une lecture, je dirais, à sens plus fort. Alors la lecture à minima, qui est la plus courante, est la suivante. Au fond, elle consisterait à dire que Rousseau reconnaît, ce qu'il fait partout, que l'homme est devenu un être civil, que la nature ne fait pas de regrets, pas en arrière, comme il dit, et que, par conséquent, l'idée de vivre, entre guillemets, dans l'état de nature, contrairement à ce que croit Voltaire, ne lui est jamais passée par la tête. Il faut, entre guillemets, se résigner à vivre dans la société. Mais la société, on le sait aussi, est une société corrompue. Et que, par conséquent, je dirais, il faut se protéger de cette corruption, s'en tenir à l'écart pour autant qu'on le puisse. À ce moment-là, le projet de l'Émile, si on le lit comme ça, cette interprétation, Émile va vivre à côté des hommes, mais pas comme eux. C'est une version négative, c'est-à-dire, au fond, se soumettra à la nécessité d'une cohabitation, mais il ne constituera aucun lien de type de communauté sociale avec les autres. Cette lecture est la plus communément adoptée. Or, ce que je voudrais montrer, c'est que, en fait, la pensée de Rousseau est tout au long de l'Émile, et dirigé à une conclusion qui est bien différente. C'est-à-dire que ce que vers quoi on va, c'est pas du tout à dire que au fond, Humine ne va pas vivre en clandestin, ne va pas vivre en retiré ou en exilé de l'intérieur, dans la société, un ermite urbain, si vous voulez, ce sauvage urbain ne va pas devenir un ermite humain, mais il va être appelé à quelque chose comme un engagement auquel il est tenu. Pour des raisons profondément morales et politiques qui tiennent à ce qu'il est. Donc nous sommes à la fin du livre 3, et ce constat de Rousseau, en un mot, Émile a la vertu tout ce que se rapporte à lui-même, pour avoir aussi les vertus sociales, il lui manque uniquement de connaître les relations qui les exigent. Il lui manque uniquement les lumières, etc. Donc ici, simplement, c'est la question va devenir celle des relations, parce qu'il va s'agir de prendre en compte le fait, je reprends, que nous sommes devenus, et nous sommes fondamentalement, des êtres relatifs. L'illusion, je dirais ici, et la question m'était initialement posée, la voix se considérer de façon absolue, c'est une chose qui est définitivement, je dirais, récusée pour nous. Il faut que nous considérons, y compris quand nous considérons pour nous-mêmes, que nous le fassions en nous connaissant comme êtres relatifs. D'où cette affirmation, c'est le chapitre, la référence 13, si vous voulez, très rapidement. L'étude convenable à l'homme est celle de ses rapports. Tant qu'il ne se connaît pas que par son être physique, il doit s'étudier par ses rapports avec les choses. C'est l'emploi de son enfance. Quand il commence à sentir son être moral, il doit s'étudier par ses rapports et les hommes. C'est l'emploi de sa vie entière. À commencer au point où nous voilà parvenus. Donc, étudier dans ses rapports avec les hommes, c'est fondamentalement de ça qu'il est question. Et ce moment décisif, et qui est celui donc qui couvre les livres 4 et 5 de l'Émile, avec une espèce d'ailleurs d'entrée très rapide, puis de repli, c'est intéressant, par la profession de foi, pour revenir en charge au cinquième livre, et c'est parce qu'il y a besoin, je dirais, de passer par la profession de foi, mais je ne développerai pas cet aspect, comme cette provision, entre guillemets, cette provision qui va permettre précisément d'engager correctement cette étude des rapports. C'est au début du livre 5, donc je venais de lire les dernières lignes du livre 4, Rousseau reprend cette idée. Parce que c'est intéressant, nous sommes au moment où il y a l'éveil de la sexualité, l'histoire et l'éveil de la sexualité, la connaissance, en guillemets, des relations sociales, Rousseau évoquera celle des... l'utilité ou non des histoires et des fables, et au livre 3, et des critères, entre guillemets, qui vont nous permettre de nous comporter dans nos relations, et ça, c'est en grande partie l'objet de la profession de foi. Je reprends de ce point de vue-là, quitte à revenir en arrière tout à l'heure, enfin, je passe rapidement sur cet aspect du livre 4 pour venir au livre 5. Nous voici parvenus au dernier acte de la Genèse, mais nous ne sommes pas encore au dénouement. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Émile est homme, nous lui avons promis une compagne. Il faut la lui donner. Cette compagne est Sophie. Puisque notre gentilhomme, dit Locke, est prêt à se marier, il est temps de le laisser auprès de sa maîtresse. Et là-dessus, il finit son ouvrage. Pour moi, qui n'ai pas l'honneur d'élever un gentilhomme, je me garderai d'imiter Locke en cela. Autrement dit, Locke s'arrête. L'éducation au moment de la formation entre guillemets, du couple de son élève, et Rousseau au contraire va la continuer si je puis me permettre, jusqu'à rentrer dans leur chambre à coucher. Cela dit, et c'est intéressant parce que ce qu'il va continuer, nous sommes au début du livre 5, va consister très précisément dans les deux éducations en guillemets politiques et si on peut dire sexuelles, correspondent aux deux leçons sur lesquelles se finit l'Émile. Je parlais tout à l'heure du texte sur lequel je vais revenir, mais c'est suivi d'un ultime message qui concerne ce qu'on pourrait appeler la morale sexuelle que énoncée par le précepteur Émile et Sophie à ce moment-là, et c'est là-dessus que se conclut l'Émile, je rappelle. Je ne le développerai pas, mais je n'ai pas résisté parce que je pense que c'est intéressant et important. C'est mon texte 15, relever quelques propositions qui sont assez, je dirais, à mon avis, fortes pour mériter d'être soulignées. Et je trouve quand on parle du rapport de Rousseau aux femmes, et notamment à la figure de Sophie, on ignore trop cette dimension qui me paraît capitale. La contrainte et l'amour vont mal ensemble, et le plaisir ne se commande pas. Le précepteur est en train de s'adresser à Émile et à Sophie. Souvenez-vous, tous deux, que vous êtes libres et qu'il n'est pas ici question des devoirs d'époux. Croyez-moi, point de fausse déférence entre vous. Et les autres, rougissant, il va insister que chacun des deux, toujours maître de sa personne et de ses caresses, ait droit de ne dispenser à l'autre qu'à sa propre volonté. Souvenez-vous toujours que même dans le mariage, le plaisir n'est légitime que quand le désir est partagé. Ne craignez pas, mes enfants, que cette loi vous tienne éloigné. Au contraire, elle vous rendra tous deux plus attentifs à vous plaire et préviendra la satiété. Je trouve que ça se passe de commentaires, mais ce principe de conduite dans la sexualité dans le couple me paraît assez frappant à noter. Mais précisément, il ne s'agit pas... Il va s'agir dans le livre 5 de l'Émile, essentiellement de la conduite à avoir, non pas dans l'intimité de la relation intersubjective d'un homme et d'une femme, mais dans le rapport à la société. Or, après s'être considéré par ses rapports physiques avec les autres êtres, par ses rapports moraux avec les autres hommes, il lui reste, c'est le livre d'Émile, à se considérer par ses rapports civils avec ses concitoyens. Il faut pour cela qu'il commence par étudier la nature du gouvernement en général, les diverses formes de gouvernement, et enfin le gouvernement particulier, sous lequel il est né, pour savoir s'il lui convient d'y vivre. Car, par un droit que rien ne peut abroger, chaque homme, en devenant majeur et maître de lui-même, devient maître aussi de renoncer au contrat par lequel il tient à la communauté, en quittant le pays dans lequel elle est établie. Alors, je ne développerai pas cet aspect bien connu, mais c'est ceci qui explique, je dirais, la présence dans le dernier livre de l'Émile d'un résumé, d'un exposé plus exactement, des institutions politiques, non seulement du contrat social, qui de ces principes, hein, de cette science, grande science, encore un être, nous dit Rousseau, je ne développerai pas, que sont les principes du droit politique. C'est important ici, parce que si on y réfléchit, quel est, pourquoi est-ce que ça existe dans les mille ? Il faut faire ici le parallèle avec le début du contrat social. Au début du contrat social, Rousseau nous explique quelle est la raison pour laquelle il écrit ce livre. Il dit, parce que je suis citoyen, je ne suis pas prince, comme Émile n'est pas roi, mais je suis citoyen. Et comme citoyen, je suis membre du souverain, et comme tel, c'est un devoir pour moi de m'instruire. De quoi ? Des critères qui vont me permettre de me conduire en citoyen. Pourquoi, dans Émile, y a-t-il à voir ce résumé, en guillemets, je dis encore une fois, non seulement du contrat social, mais de l'ensemble des institutions politiques, des relations. Eh bien, pour une raison qui n'est pas exactement la même, mais qui est, je dirais, le corollaire. C'est parce que Émile se découvre comme homme relatif, donc vivant en société, et par conséquent nécessairement inscrit dans des rapports politiques avec ses concitoyens. Et par conséquent, il lui faut à lui, c'est intéressant, parce que ça nous montre qu'il y a un double enracinement de la nécessité de la pensée politique, et j'aurais, je ne voudrais pas dire, un double enracinement de la nécessité l'engagement politique. Il y a un enracinement, je dirais, proprement politique, qui est celui du contrat social, et qui est dans l'appartenance au souverain. Le pouvoir que l'on exerce, et ici, on est dans un enracinement politique. Et puis, il y a un deuxième enracinement, qui est un enracinement qui tient à sa condition d'homme comme être relatif. Et cet enracinement, du coup, va être moral. Et c'est un enracinement de morale politique. Et en fait, je dirais, c'est cette deuxième démonstration qui va être faite dans les mille. Et la leçon que j'évoquais maintenant, sur laquelle je vais maintenant rapidement, il nous reste 20 minutes, me semble. Non, je vous proposais de lire rapidement, de l'Émile, tient très précisément à ça. Qu'est-ce que, au fond, quelle est l'erreur dans laquelle va tomber Émile ici, on va le voir, et que va corriger son maître. L'erreur dans laquelle va tomber Émile, c'est de croire que, précisément, les devoirs, les nécessités de l'engagement politique, et donc la connaissance, etc., qui s'impose, sont liés au statut de citoyen. Et ne sont liés qu'à celui-là. Et donc, il va être dans un constat d'impossibilité et dire, du coup, je n'existe comme homme. Que comme homme. Et qu'à ce moment-là, on a de devoirs qu'envers soi-même et que moraux. Et la démonstration que va lui faire son précepteur, c'est qu'il se trompe. Il se trompe parce que sa nature d'être comme être relatif lui implique des devoirs moraux qui sont des devoirs politiques. Voilà, en gros, l'objet de la démonstration. Alors, je prends rapidement ce texte. Donc, nous avons rapidement évoqué, je dirais, l'apprentissage théorique fait par Émile des principes du droit politique. À quoi d'ailleurs, je rappelle qu'il y a un moment où il s'impatiente et se retourne vers son précepteur et lui dit « Votre truc, c'est bien abstrait. Ce qu'il faudrait regarder, c'est pas cette typologie des sociétés, c'est pas ces principes, mais les sociétés réelles. » Et c'est pour ça qu'ils vont partir en voyage. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'est évoqué Fénelon, qu'est évoqué Télémaque. Donc, les deux années de voyage qui sont faites au travers de l'Europe, pour expliquer cette restriction, ce serait intéressant, mais bon, je n'en ai pas le temps. Émile revient. Il revient, et il revient donc pour le dernier acte. Hein. Il revient, alors, on ne sait pas exactement où, hein, mais il revient dans ce lieu dans lequel il a été élevé. Il revient vers Sophie. Et donc, il va avoir, il a ce double nécessité de se situer, je dirais, par rapport à elle, donc, et se situer, se lier, en guillemets, se situer par rapport à la société. Donc, la question est de savoir ce qu'il a appris et ce qu'il a compris. Alors, la première phase que nous avons à faire, c'est le, me semble-t-il, et de très loin, le grand discours d'Émile, dans l'Émile. Émile, c'est un élève, il écoute. Là où on voit qu'il est en train de devenir un homme, c'est qu'au livre 5, il se met enfin à s'exprimer. Alors, il s'exprime de façon assez longue sur sa passion pour Sophie, sur ses projets, et il s'exprime ici sur l'expérience de ses voyages et des leçons trimées qu'il croit pouvoir en tirer. Et il prend la parole, je veux dire, ça c'est le livre 5, et bien sûr, il va rentrer dans les actes au-delà du livre 5. Je ne l'aborde pas parce que ça va tout virer à la catastrophe, comme vous le savez, ça s'appelle Émile et Sophie, ou Les Solitaires, qui est une mise à l'épreuve par l'expérience de ce que a donné l'éducation d'Émile. Et le moins qu'on puisse dire, c'est Rousseau n'en est pas très satisfait. Bon, mais c'est trop long pour. Enfin, ce serait trop long d'aborder. Alors, ici, comment revient Émile? Là, ils ont voyagé, et il va tenir un long discours. Or, son précepteur lui demande « Eh bien, mon ami, vous souvenez du principal objet de nos voyages, vous avez vu, et le principal objet, je rappelle, c'est de savoir où allons-nous nous fixer, hein, dire où Émile va-t-il habiter et dans quelles conditions. Vous avez vu, vous avez observé, quel est enfin le résultat de vos observations? À quoi vous fixez-vous? Où je me suis trompé dans ma méthode? Où il doit me répondre à peu près ceci? » Et là, on est dans la fiction, hein. On est dans la fiction, alors c'est intéressant, pourquoi il doit me répondre, et ainsi de suite. C'est très important parce que nous sommes dans le moment de bascule du roman fictif qu'est l'Émile, c'est-à-dire un roman abstrait, un roman d'un être générique, au roman réel qui est Émile et Sophie, qui est celui qui passe. Alors pourquoi on passe de l'un à l'autre? Ben, tout simplement parce que tant qu'il s'agit que d'être éduqué... de décrire une éducation, on peut décrire l'éducation d'un homme abstrait. À partir du moment où il s'agit d'agir, on agit in situ, dans des circonstances, dans des rapports, etc. Donc on est dans la singularité. Donc le passage, je dirais, du roman théorique au roman, de l'Émile à Émile et Sophie, est rigoureusement réglé, et c'est ici qu'il intervient, hein, au livre 5, Rousseau tient, je dirais, au fond, on voit le précepteur tenir encore les deux mains, et comme il voit l'enfant partir, marcher de ses propres pas. Alors que lui répond Émile? Je le résume, hein. À quoi je me fixe? À rester tel que vous m'avez fait être. Alors je vais rapidement, je ne lis pas tout ce texte, hein, dans ce que nous raconte ici Émile, ça peut se résumer de façon assez simple. Émile, tout fier de lui, dit « je suis... » le vrai produit de votre éducation, et je suis un parfait petit stoïcien. Alors je suis un parfait petit stoïcien parce que j'ai compris que la nécessité, il faut l'accepter. J'ai compris que les lois de la société dans laquelle où on est, quand on y est, il faut y obéir. Pour le reste, on est libre, je dirais, en étant indépendant, pour autant qu'on puisse l'être. Et pour ça, ajoute-t-il, il faut renoncer à la propriété et à l'enracinement. Parce que, précisément, avec cette formule très forte, hein, j'ai trouvé qu'empire et liberté étaient deux mots incompatibles. Je ne pouvais être maître d'une chaumière qu'en cessant de l'être de moi. Donc, ici, il faut se dépouiller de ses biens pour pouvoir, au moins, on va voir qu'il s'en dépouille en esprit. Pas tout le temps en réalité. Mais la formule est très forte. Alors, je ne vais pas développer, mais bien sûr, c'est une analyse de Rousseau qui est très intéressante parce qu'elle rapporte, on voit qu'il est très conscient de la rigueur de son système, elle rapporte l'empire à la terre, c'est-à-dire à la relation aux choses, et la domination aux personnes, donc à la relation de personnes. On se souvient du passage du contrat social dans lequel il dit que le pire de la servitude, c'est quand les rois, au lieu de s'appeler roi de France, des Français deviennent rois de France, puisque en s'emparant du territoire, ils veulent fonder leur domination sur les hommes. Donc Émile, cette longue envolée, se définit de la même manière comme citoyen du monde. Il nous dit, et je suis pauvre, je suis libre, je ne serai point seulement en tel pays, en telle contrée, je le serai par toute la terre. Il y a, je dirais, c'est l'interprétation morale du cosmopolitisme stoïcien que tient ici Émile, et dans laquelle il s'est satisfait. Que m'importe ma condition sur la terre, que m'importe où que je suis, partout où il y a des hommes, je suis chez mes frères. Partout il n'y en a pas, je suis chez moi. Ça, par contre, c'est... Bon, c'est je ne reviens pas... un passage qui le mieux développé, c'est dans les principes du droit de la guerre. Bon. Et à quoi ça renvoie, ça? À un concept de la liberté, qu'on connaît bien, qui est sous-jacent, toute une partie de la pensée de Rousseau, qui est la volonté d'indépendance. Si j'étais sans passion, je serais dans mon état d'homme, indépendant, comme Dieu même, hein, avec cette formulation qui est extraordinaire. Et Émile est tout fier. Il croit, je dirais, au fond, être arrivé au but que s'était fixé son précepteur, qui lui répond vertement en lui disant « En fait, tu n'as rien compris. » Et tu n'as rien compris pourquoi. Il commence d'ailleurs par lui dire qu'il est content de l'entendre tenir un discours d'homme. C'est intéressant parce que ici, bien sûr, qu'il faut entendre comme homme anthropos, hein, c'est-à-dire précisément de celui qui se considère comme un être libre, les égaux, etc., l'être qu'il a voulu éduquer depuis le début. Mais ce désintéressement, une plaie de Neuvain, il diminuera, etc. Et il commence par, je dirais, aller dans son sens, même en accentuant, en lui disant, en lui prétend l'argumentation politique à Émile, qui consisterait à dire, mais de toute façon, précisément, les sociétés dans lesquelles nous sommes contraints de vivre, étant, ne sont pas, dit-il, des patries, on ne peut pas y être citoyen, la loi y est un faux semblant, elle protège les riches et les durs aux pauvres, et ainsi de suite, et par conséquent, nous ne sommes tenus par aucune obligation à cet égard, sinon celle, encore une fois, de la nécessité qui s'impose à nous. Et il récuse même l'idée des devoirs des citoyens, hein, et tu croirais, alors, si je te parlais des devoirs du citoyen, tu demanderais peut-être où est la patrie, ta patrie, la patrie, et tu croirais m'avoir confondu. Tu te tromperais pourtant, cher Émile, car qui n'a pas une patrie a du moins un pays. Il y a toujours un gouvernement et des simulacres de loi sous lesquels il a vécu tranquille. Que le contrat social n'ait point été observé, qu'importe si l'intérêt particulier l'a protégé. Comme aurait fait la volonté générale, si la violence publique l'a garanti l'évidence particulière, si le mal qu'il a vu faire lui a fait aimer ce qui était bien, et si nos institutions même lui ont fait connaître et haïr leurs propres iniquités. Ô Émile, où est l'homme de bien qui ne doit rien à son pays? Quel qu'il soit, il lui doit ce qu'il y a de plus précieux pour l'homme, la moralité de ses actions et l'amour de la vertu. Nous savons qu'il n'y a de moralité que dans la société civile. C'est pas besoin de rester. Né dans le fond d'un bois, il eût vécu plus heureux et plus libre. Il aurait été un animal stupide et borné, mais bienveillant. Mais n'ayant rien à combattre pour suivre ses penchants, il eût été bon sans mérite. Il n'eût point été vertueux. Et maintenant, il sait l'être malgré ses passions. La seule apparence de l'ordre, etc., ne dit donc pas que m'importe où je suis. Il t'importe d'être où tu peux remplir tous tes devoirs. Et la formule, hein, il t'importe d'être où tu peux remplir tous tes devoirs. Et l'un de ces devoirs est l'attachement pour le lieu de la naissance. Tes compatriotes te protègent en rare enfant. Tu dois les aimer étant homme. Tu vas vivre au milieu d'eux, ou du moins alors en lieu d'où tu puisses leur être utile. Bon, là, on va continuer. Et donc, je suis rapide parce qu'il faut qu'il me reste 5 minutes, ça.
Oui, 2 minutes.
Ah, il reste 2 minutes. Bon, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous lirez, vous connaissez ce texte sans doute, mais ce qui est très intéressant, c'est la façon dont on va... le précepteur est en train d'expliquer à Émile qu'il a un engagement, je dirais, au fond, dont l'enracinement est moral, qui tient à son existence, sa définition comme être relatif, qui tient à la dette générale qu'il a envers le genre humain, mais plus précisément vers la société dans laquelle il a été élevé, et qui lui confère quelque chose qui est l'ordre de la responsabilité, et donc la nécessité d'un engagement politique. C'est extrêmement intéressant. Alors, je dis tout de suite, on trouverait une démonstration en forme de cette même idée dans un texte qu'on connaît généralement sous le titre, de L'être sur la vertu. L'être sur la vertu qui n'est pas, je vous chercherai en vain dans aucune des éditions, n'a été publié pour l'instant qu'une fois au XIXe siècle, c'était par Stoïcien Moutou, et une deuxième fois dans les annales Jean-Jacques Rousseau en 95, quelque chose comme ça, par Charles Wirtz et Jean Starobinski. Alors, le titre L'être sur la vertu, qui qui avait été donné dès l'origine, dès la première publication, et qui est repris par l'édition de Sarobinski, me semble, ben, pour deux raisons discutables, je ne suis pas sûr du tout qu'il soit, de moins en moins sûr qu'il s'agit d'une lettre, alors, pas du tout sûr qu'il s'agisse d'une lettre sur la vertu, ou en tout cas, il faudrait à ce moment-là l'appeler vertu civile ou vertu politique. C'est un texte qui est assez extraordinaire, et dans lequel, précisément, alors, il est adressé, c'est pour ça qu'on a cru une lettre. Je crois pour ma part que c'est en fait une première rédaction, un texte parallèle, entre guillemets, de cette adresse du précepteur à Émile. Parce qu'il démontre simultanément la même chose, mais avec une reprise systématique dans le rapport avec le second discours et avec le contrat social, le chapitre sur l'état civil, dans laquelle, et où on a notamment une réflexion très poussée sur la notion d'être relatif. C'est un texte qui est passionnant pour ça. Ce qui m'importe ici, c'est de le noter, au fond, la voie que nous cherchions, enfin, que Rousseau, c'était un objet, réunir ce même objet, il la découvre dans la réalité. C'est-à-dire qu'au fond, être élevé pour soi, c'est être élevé, je dirais, entre guillemets, moralement, c'est ce qui débouche sur la profession de foi. C'est le point ultime, à mon avis, de ce point de vue-là, dans Émile, c'est la profession de foi. Mais être élevé pour soi, il faut chercher le concours à être élevé pour la société. Or, en fait, de cette conjonction, on la trouve précisément dans la notion d'être relatif. Alors, on pourrait montrer, c'est parce que nous sommes des êtres relatifs qu'il est, je dirais, à la fois nécessaire et possible de nous considérer, je dirais, dans ce double rapport et d'unir ces deux rapports en nous. Alors, on pourrait diviser... continuer, notamment le texte termine par une évocation, quelle est la modalité sous laquelle, c'est intéressant, on peut, même quand on n'a pas de patrie, c'est-à-dire que lorsque le droit du citoyen, le pouvoir du citoyen, on ne peut pas les exercer, comment on peut être présent, entre guillemets, et être, entre guillemets, engagé dans la société. Alors c'est intéressant de le voir, il y a trois thèmes qui émergent. Le premier thème, c'est celui de l'exemple, c'est-à-dire qu'au fond, en vivant, hein, conformément à cet idéal à la fois moral et politique qui doit être celui de l'homme et du citoyen auprès des autres. Le deuxième, il y a un modèle explicitement patriarcal, hein, qui est celui de Clarence, en fait, c'est-à-dire qu'au fond il incite Émile et Sophie à installer, donc du coup pas en ville mais à la campagne, une propriété comme celle de Clarence qui sera un modèle, entre guillemets, avec, qui montrera ce au fond, comment l'âge d'or est un idéal qu'il ne faut pas perdre de vue, des considérations sur les normes morales. Et ce qui est, il y a une troisième modalité qui est intéressante, c'est celle de Rousseau lui-même, où il dit à Émile, toi, tu peux t'engager de cette manière-là, parce que tu peux éviter, je cite, mais toi, Émile, à qui, alors, il vient, oui, il y a telle circonstance où un homme peut être plus utile à ses concitoyens hors de sa patrie que s'il vivait dans son sein. Il y a quelques fautes de frappe, hein, je dis tout de suite. Dans son sein. Alors, à qui pense-t-il? Bien sûr, clairement à lui-même. Je rappelle quand même qu'on est en 61, si on veut, fin 61, et donc, au moment où Rousseau finit ses rédactions, et donc, il est à Montmorency. On est, c'est pas encore je dirais, le surexil que sera l'abdication de son droit de citoyenneté l'année suivante. Mais en tout cas, mets-toi, bon Émile, à qui rien n'impose ses douloureux sacrifices, toi qui n'as pas pris le triste emploi de dire la vérité aux hommes, va vivre au milieu d'eux. Alors, c'est intéressant. Il y a donc, et ici on a bien pas vivre à côté, vivre au milieu d'eux. Donc, ce qu'il doit comprendre, c'est qu'il y a deux modalités, hein, sur lesquelles on peut satisfaire à l'exigence morale d'engagement politique. Il y en a une, c'est la position de celui qui dit la vérité, celle de Rousseau, et qui peut pas pour cela être obligé de s'exiler de sa patrie. Qui dit la vérité, par exemple, c'est celui qui va écrire, c'est la posture qu'il adoptera en disant « Genève, voici ton histoire », hein, lorsqu'il montrera le dépérissement inéluctable de la démocratie en aristocratie dans les lettres écrites de la montagne. Et puis, il y a l'autre position, qui est celle qu'il défend pour Émile, c'est celle d'aller vivre au milieu de ses concitoyens, je dirais, en étant un exemple vivant, entre guillemets, de ce que peut être vivre, je dirais, pleinement, en satisfaisant à ses devoirs moraux et politiques. Je vous remercie.